Jules Verne, sans dessus dessous, chapitre 17. Ce qui s'est fait au Kilimandjaro pendant 8 mois de cette année mémorable. Le pays de Wamasai est situé dans la partie orientale de l'Afrique centrale, entre la côte de Zanguebar et la région des Grands Lacs où le Victoria Nyanza et le Tanganyika forment autant de mers intérieures. Si on le connaît en partie, c'est qu'il a été visité par l'anglais Johnstone, le comte Tekeli et le docteur allemand Meyer. Cette contrée montagneuse se trouve sous la souveraineté du sultan Bali Bali, dont le peuple est composé de 30 à 40 000 nègres. À 3 degrés au-dessous de l'équateur se dresse la chaîne du Kilimandjaro, qui projette ses plus hautes cimes, entre autres celle du Kibo, à une altitude de 5 704 mètres, près de 1 000 mètres de plus que le Mont Blanc. Cet important massif domine vers le sud, le nord et l'ouest les vastes et fertiles plaines du Wamasai, en se reliant avec le lac Victoria Nyanza à travers les régions du Mozambique. À quelques lieues au-dessous des premières rampes du Kilimandjaro s'élève la bourgade de Kisongo, résidence habituelle du sultan. Cette capitale n'est à vrai dire qu'un grand village. Elle est occupée par une population très douée, très intelligente, travaillant autant par elle-même que par ses esclaves, sous le joug de fer que lui impose Bali Bali. Ce sultan passe à juste titre pour l'un des plus remarquables souverains de ces peuplades de l'Afrique centrale, qui s'efforce d'échapper à l'influence, ou pour être plus juste, à la domination anglaise. C'est à Kisongo que le président Barbicane et le capitaine Nicholl, uniquement accompagnés de 10 contremaîtres dévoués à leur entreprise, arrivèrent dès la première semaine du mois de janvier de la présente année. En quittant les États-Unis, départ qui ne fut connu que de Mrs. Evangelina Scorbitt et de J.T. Maston, ils s'étaient embarqués à New York pour le cap de la Bonne-Espérance, d'où un navire les transporta à Zanzibar, dans l'île de ce nom. Là, une barque secrètement frétée les conduisit au port de Mombasa, sur le littoral africain, de l'autre côté du canal. Une escorte envoyée par le sultan les attendait dans ce port, et après un voyage difficile pendant une centaine de lieues à travers cette région tourmentée, obstruée de forêts, coupée de rios, trouée de marécages, ils atteignirent la résidence royale. Déjà, après avoir eu connaissance des calculs de J.T. Maston, le président Barbicane s'était mis en rapport avec Bali Bali par l'entremise d'un explorateur suédois qui venait de passer quelques années dans cette partie de l'Afrique. Devenu l'un de ses plus chauds partisans depuis le célèbre voyage du président Barbicane autour de la Lune, voyage dont le retentissement s'était propagé jusqu'en ces pays lointains, le sultan s'était pris d'amitié pour l'audacieux Yankee. Sans dire dans quel but, Impi Barbicane avait aisément obtenu du souverain du Wamasai l'autorisation d'entreprendre des travaux importants à la base méridionale du Kilimandjaro. Moyennant une somme considérable, évaluée à 300 000 dollars, Bali Bali s'était engagé à lui fournir tout le personnel nécessaire. En outre, il l'autorisait à faire ce qu'il voudrait du Kilimandjaro. Il pouvait disposer à sa fantaisie de l'énorme chaîne, la raser s'il en avait envie, l'emporter s'il en avait le pouvoir. Par suite d'engagements très sérieux auxquels le sultan trouvait son compte, la North Polar Practical Association était propriétaire de la montagne africaine au même titre qu'elle l'était du domaine arctique. L'accueil que le président Barbicane et son collègue reçurent à Kisongo fut des plus sympathiques. Bali Bali éprouvait une admiration voisine de l'adoration pour ces deux illustres voyageurs qui s'étaient lancés à travers l'espace afin d'atteindre les régions circumlunaires. En outre, il ressentait une extraordinaire sympathie envers les auteurs des mystérieux travaux qui allaient s'accomplir dans son royaume. Aussi promit-il aux Américains un secret absolu, tant de sa part que de celle de ses sujets, dont le concours leur était assuré. Pas un seul des nègres qui travaillerait au chantier n'aurait droit de les quitter même un jour sous peine des plus raffinés supplices. Voilà pourquoi l'opération fut enveloppée d'un mystère que les plus subtils agents de l'Amérique et de l'Europe ne purent pénétrer. Si ce secret avait été enfin découvert, c'est que le sultan s'était relâché de sa sévérité après l'achèvement des travaux, et qu'il y a partout des traîtres ou des bavards, même chez les nègres. C'est de la sorte que Richard W. Trust, le consul de Zanzibar, eut vent de ce qui se faisait au Kilimandjaro. Mais alors, à cette date du 13 septembre, il était trop tard pour arrêter le président Barbicane dans l'accomplissement de ses projets. Et maintenant, pourquoi Barbicane & Co. avait-il choisi le Wamasai comme théâtre de son opération ? C'est d'abord parce que le pays lui convenait en raison de sa situation en cette partie peu connue de l'Afrique et de son éloignement des territoires habituellement visités par les voyageurs. Puis le massif du Kilimandjaro lui offrait toutes les qualités de solidité et d'orientation nécessaires à son œuvre. De plus, à la surface du pays se trouvaient les matières premières dont il avait précisément besoin et dans des conditions particulièrement pratiques pour leur exploitation. Justement, quelques mois avant de quitter les États-Unis, le président Barbicane avait appris de l'explorateur suédois qu'au pied de la chaîne du Kilimandjaro, le fer et la houille étaient abondamment répandus à l'affleurement du sol. Pas de mine à creuser, pas de gisement à rechercher à quelques milliers de pieds dans l'écorce terrestre. Du fer et du charbon, il n'y avait qu'à se baisser pour en prendre, et en quantité certainement supérieure à la consommation prévue par les devis. En outre, il existait dans le voisinage de la montagne d'énormes gisements de nitrate de soude et de pyrite de fer nécessaires à la fabrication de la mélimélonite. Le président Barbicane et le capitaine Nicholl n'avaient donc amené aucun personnel avec eux, si ce n'est 10 contremaîtres dont ils étaient absolument sûrs. Ceux-ci devaient diriger les 10 000 nègres mis à leur disposition par Balibali, auquel incombait la tâche de fabriquer le canon monstre et son non moins monstrueux projectile. 2 semaines après l'arrivée du président Barbicane et de son collègue au Hamasai, 3 vastes chantiers étaient établis à la base méridionale du Kilimandjaro. L'un pour la fonderie du canon, le second pour la fonderie du projectile, le 3e pour la fabrication de la mélimélonite. Et d'abord, comment le président Barbicane avait-il résolu ce problème de fondre un canon de dimension aussi colossale? On va le voir et l'on comprendra en même temps que la dernière chance de salut tiré de la difficulté d'établir un pareil engin, échappait aux habitants des deux mondes. En effet, fondre un canon égalant 1 million de fois en volume le canon de 27, c'eût été un travail au-dessus des forces humaines. On a déjà de sérieuses difficultés pour fabriquer les pièces de 42 cm qui lancent des projectiles de 780 kg, avec 274 kg de poudre. Aussi, Barbicane et Nicholl n'y avaient-ils point songé? Ce n'était pas un canon, pas même un mortier qu'il prétendait faire, mais tout simplement une galerie percée dans le massif résistant du Kilimandjaro, un trou de mine, si l'on veut. Évidemment, ce trou de mine, cet énorme fougasse, pouvait remplacer un canon de métal, une Columbiad gigantesque, dont la fabrication eût été aussi coûteuse que difficile, et à laquelle il aurait fallu donner une épaisseur invraisemblable pour prévenir toute chance d'explosion. Barbicane & Co. avait toujours eu la pensée d'opérer de cette façon. Et si le carnet de J.T. Maston mentionnait un canon, c'est que c'était le canon de 27 qui avait été pris pour base de ses calculs. En conséquence, un emplacement fut de prime abord choisi à une hauteur de 100 pieds sur le revers méridional de la chaîne, au bas de laquelle se développent des plaines à perte de vue. Rien ne pourrait faire obstacle au projectile quand il s'élancerait hors de cette âme, fourrée dans le massif du Kilimandjaro. Ce fut avec une précision extrême et non sans un rude travail que l'on creusa cette galerie. Mais Barbicane put aisément construire des perforatrices qui sont des machines relativement simples et les actionner au moyen de l'air comprimé par les puissantes chutes d'eau de la montagne. Ensuite, les trous percés par les forêts des perforatrices furent chargés de mélimélonite. Et il ne fallait pas moins que ce violent explosif pour faire éclater la roche, car c'était une sorte de syénite extrêmement dure, formée de feldspath orthose et d'amphibole hornblende. Circonstance favorable au surplus, puisque cette roche aurait à résister à l'effroyable pression développée par l'expansion des gaz. Mais la hauteur et l'épaisseur de la chaîne du Kilimandjaro suffisaient à rassurer contre tous les ardements ou craquements extérieurs. Bref, les milliers de travailleurs, conduits par les 10 contremaîtres sous la haute direction du président Barbicane, s'appliquèrent avec tant de zèle, avec tant d'intelligence, que l'œuvre fut menée à bonne fin en moins de 6 mois. La galerie mesurait 27 mètres de diamètre sur 600 mètres de profondeur. Comme il importait que le projectile pût glisser sur une paroi parfaitement lisse, sans rien laisser perdre des gaz de la déflagration, l'intérieur en fut blindé avec un étui de fonte parfaitement alésé. En réalité, ce travail était autrement considérable que celui de la célèbre Columbiad de Moon City qui avait envoyé le projectile d'aluminium autour de la Lune. Mais qu'y a-t-il donc d'impossible aux ingénieurs du monde moderne? Tandis que le forage s'accomplissait au flanc du Kilimandjaro, les ouvriers ne chômaient pas au second chantier. En même temps que l'on construisait la carapace métallique, on s'occupait de fabriquer l'énorme projectile. Rien que pour cette fabrication, Il s'agissait d'obtenir une masse de fonte cylindro-conique pesant 180 millions de kilogrammes, soit 180 000 tonnes. On le comprend, jamais il n'avait été question de fondre ce projectile d'un seul morceau. Il devait être fabriqué par masse de 1000 tonnes chacune, qui seraient hissées successivement à l'orifice de la galerie et disposées contre la chambre où serait préalablement entassée la mélimélonite. Après avoir été boulonnés entre eux, ces fragments ne formeraient qu'un tout compact qui glisserait sur les parois du tube intérieur. Nécessité fut donc d'apporter au second chantier environ 400 000 tonnes de minerais, 70 000 tonnes de castine et 400 000 tonnes de houille grasse que l'on transforma d'abord en 280 000 tonnes de coke dans des fours. Comme les gisements étaient voisins du Kilimandjaro, ce ne fut presque qu'une affaire de charroi. Quant à la construction des hauts fourneaux pour obtenir la transformation du minerai en fonte, là surgit peut-être la plus grande difficulté. Toutefois, au bout d'un mois, 10 hauts fourneaux de 30 mètres étaient en état de fonctionner et de produire chacun 180 tonnes par jour. C'était 1800 tonnes pour 24 heures, 180 000 après 100 journées de travail. Quant au troisième chantier, créé pour la fabrication de la mélimélonite, le travail s'y fit aisément. Et dans des conditions de secret telles que la composition de cet explosif n'a pu être encore définitivement déterminée. Tout avait marché à souhait. On n'eût pas procédé avec plus de succès dans les usines du Creusot, de Kehl, d'André, de la Seine, de Birkenhead, de Woolwich ou de Cockerill. À peine comptait-on un accident par 300 000 francs de travaux. On peut le croire, le sultan était ravi. Il suivait les opérations avec une infatigable assiduité, et on imagine aisément si la présence de sa redoutable majesté était de nature à stimuler le zèle de ses fidèles sujets. Parfois, lorsque Bali Bali demandait à quoi servirait toute cette besogne, « Il s'agit d'une œuvre qui doit changer la face du monde », lui répondait le président Barbicane. « Une œuvre qui assurera au sultan Bali Bali, ajoutait le capitaine Nicholl, une gloire ineffaçable entre tous les rois de l'Afrique orientale. » Si le sultan en tressaillait dans son orgueil de souverain du Wamasai, inutile d'insister. À la date du 29 août, les travaux étaient entièrement terminés. La galerie, forée au calibre voulu, était revêtue de son âme lisse sur une longueur de 600 mètres. Au fond, étaient entassées 2000 tonnes de mélimélonite en communication avec la boîte aux fulminates. Puis venait le projectile, long de 150 mètres. En défalquant la place occupée par la poudre et le projectile, il restait à celui-ci encore 492 mètres à parcourir jusqu'à la bouche, ce qui assurerait tout son effet utile à la poussée produite par l'expansion des gaz. Cela étant, une première question se posait, question de pure balistique. Le projectile dévirait-il de la trajectoire qui lui était assignée par les calculs de J.T. Maston ? En aucune façon. Les calculs étaient corrects. Ils indiquaient dans quelle mesure le projectile devait dévier vers l'est du méridien du Kilimandjaro, en vertu de la rotation de la Terre sur son axe, et quelle était la forme de la courbe hyperbolique qu'il décrirait en vertu de son énorme vitesse initiale. Seconde question. Serait-il visible pendant son parcours ? Non, car au sortir de la galerie, plongé dans l'ombre de la Terre, on ne pourrait l'apercevoir, et d'ailleurs, par suite de sa faible hauteur, il aurait une vitesse angulaire très considérable. Une fois rentré dans la zone de lumière, la faiblesse de son volume le déroberait aux plus puissantes lunettes, et à plus forte raison quand, échappé aux chaînes de l'attraction terrestre, il graviterait éternellement autour du Soleil. Certes, le président Barbicane et le capitaine Nicholl pouvaient être fiers de l'opération qu'il venait de conduire ainsi jusqu'à son dernier terme. Pourquoi J.T. Maston n'était-il pas là pour admirer la bonne exécution des travaux dignes de la précision des calculs qui les avaient inspirés ? Et surtout, pourquoi serait-il loin, bien loin, trop loin, quand cette formidable détonation irait réveiller les échos jusqu'aux extrêmes horizons de l'Afrique ? En songeant à lui, ses deux collègues ne se doutaient guère que le secrétaire du Gun Club avait dû fuir Ballistic Cottage après s'être évadé de la prison de Baltimore et qu'il en était réduit à se cacher pour sauvegarder sa précieuse existence. Ils ignoraient à quel degré l'opinion publique était montée contre les ingénieurs de la North Polar Practical Association. Ils ne savaient point qu'ils auraient été massacrés, écartelés, brûlés à petit feu s'il avait été possible de se saisir de leur personne. Vraiment, à l'instant où le coup partirait, il était heureux qu'ils ne pussent être salués que par les cris d'une peuplade de l'Afrique orientale. « Enfin !» dit le capitaine Nicholl au président Barbicane, lorsque dans la soirée du 22 septembre, tous deux se prélassaient devant leur œuvre parachevée. Oui, enfin! Et aussi, ouf! Fit impie Barbicane en poussant un soupir de soulagement. Si c'était à recommencer, bah, nous recommencerions. Quelle chance, dit le capitaine Nicholl, d'avoir eu à notre disposition cette adorable Mélimélonite. Qui suffirait à vous illustrer, Nicholl?
Sans doute Barbicane, répondit modestement le capitaine Nicholl. Mais savez-vous combien il aurait fallu creuser de galeries dans les flancs du Kilimandjaro pour obtenir le même résultat si nous n'avions eu que du fulmicoton, pareil à celui qui a lancé notre projectile vers la Lune?
Dites, Nicholl.
180 galeries, Barbicane.
Eh bien, nous les aurions creusées, capitaine.
Et 180 projectiles de 180 000 tonnes.
Nous les aurions fondus, Nicholl.
Allez donc faire entendre raison à des hommes de cette trempe. Mais quand des artilleurs ont fait le tour de la Lune, de quoi ne seraient-ils pas capables? Et le soir même, quelques heures seulement, avant la minute précise indiquée pour le tir, tandis que le président Barbicane et le capitaine Nicholl se congratulaient ainsi, Alcide Pierre II, renfermé dans son cabinet à Baltimore, poussait le cri du Peau Rouge en délire. Puis, se relevant brusquement de la table où s'empilaient des feuilles couvertes de formules algébriques, il s'écriait « Coquin de Maston ! À l'animal ! M'aura-t-il fait potasser son problème ? Et comment n'ai-je pas découvert cela plus tôt, nom d'un cosinus ? Si je savais où il est en ce moment, j'irais l'inviter à souper et nous boirions un verre de champagne au moment même où tonnera sa machine à tout casser. » Et après un de ces uhulements de sauvage, avec lesquels il y accentuait ses parties de whist, « Le vieux Maboule, bien sûr, il avait son coup de pulvérin quand il a calculé le canon du Kilimandjaro. Et pourtant, c'était la condition sine qua non, ou sine canon, comme nous aurions dit à l'école. »